Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la radio Fréquence Mistral de Digne-les-Bains, 99.3. Je m'appelle Manon et aujourd'hui nous nous retrouvons sur l'émission Graines d'IUT, présentée par les étudiants de l'IUT de Digne-les-Bains, avec comme invité Juliette.
Bonsoir.
Et Joanne.
Bonsoir.
Ce soir, nous allons vous parler de l'impact des activités humaines sur la biodiversité marine, avec une première partie sur l'impact du plastique, des déchets et des problèmes environnementaux sur la biodiversité marine avec le dérèglement climatique, et une deuxième partie sur des phénomènes marins rarissimes qui se sont produits récemment, et nous parlerons de l'exemple de la Grande Barrière de Corail en Australie. Tout de suite, un titre de The Beach Boy Surfing USA. Aujourd'hui, nous allons explorer l'impact de nos activités humaines sur nos océans et la vie marine. Saviez-vous que chaque année, environ 8 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans ? Cette pollution a des conséquences dramatiques sur la biodiversité marine. En effet, près de 700 espèces marines sont affectées par les déchets plastiques, qu'il s'agisse de microplastiques ingérés par les poissons ou de créatures marines piégées dans les déchets. Joanne, pouvez-vous nous dire comment ces microplastiques affectent-ils la santé des animaux marins et leur survie ?
Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que sont les microplastiques. Donc, les microplastiques, ce sont toutes les particules de plastique qui ont une taille inférieure à 5 mm. On en distingue deux types, les microplastiques primaires, qui sont présents sous leur forme initiale, et les microplastiques secondaires, issus de la dégradation de déchets plastiques de plus grande taille. Cette dégradation est due aux UV, aux intempéries et à leur immersion dans l'eau. Les microplastiques sont facilement ingérables par la faune à cause de leur couleur et de leur taille. La faune peut les confondre avec de la nourriture. Elle peut aussi les assimiler par inadvertance lorsqu'ils se trouvent à proximité de leur proie. Les microplastiques se stockent dans les graisses des animaux. Par conséquent, il y a aussi un transfert trophique dans la chaîne alimentaire, ce qui affecte principalement les prédateurs qui sont situés au sommet de la chaîne alimentaire. Les microplastiques entraînent un déséquilibre de l'apport énergétique, ce qui fait que les animaux n'ont parfois plus d'énergie pour se reproduire normalement ou pour échapper aux prédateurs, par exemple. De plus, de nombreux micro-organismes se fixent et se développent sur les microplastiques, Cela peut donc accélérer la transmission d'agents pathogènes. Les microplastiques peuvent libérer des produits chimiques. Une étude a montré que l'assimilation de microplastiques pouvait avoir des effets néfastes sur le système digestif de certaines espèces de poissons. Ils peuvent aussi entraîner des perturbations endocriniennes.
Merci Johan. Est-ce que ces microplastiques affectent-ils particulièrement certaines espèces marines ?
Oui, donc il y a certaines espèces qui sont particulièrement vulnérables, comme par exemple les tortues marines. Elles vont ingérer souvent c'est des pailles ou des sacs en plastique qu'elles vont manger en pensant qu'elles mangent des méduses. Et les poissons et les cétacés, ils peuvent aussi confondre le plastique avec de la nourriture, ce qui crée des problèmes de malnutrition et de toxicité, et ça peut même entrer dans la chaîne alimentaire, affectant d'autres animaux et au final, nous les hommes.
Merci Juliette pour cette intervention très intéressante. Cependant, les déchets plastiques ne sont pas le seul fléau. Le plastique est donc un problème de plus en plus urgent, mais qu'en est-il des autres formes de pollution ?
Il y a aussi la pollution chimique. Les produits chimiques comme les pesticides, les métaux lourds et les hydrocarbures affectent également la vie marine de manière très néfaste, car ces polluants sont très souvent toxiques pour les animaux marins. Ils peuvent aussi entraîner un dérèglement de l'écosystème. Vous avez sûrement déjà entendu parler des marées vertes en Bretagne et dans d'autres régions du monde. Elles sont dues à un surdéveloppement d'algues qui est favorisé par un apport en nitrates trop important dans le milieu. Ces nitrates proviennent des engrais utilisés dans l'agriculture, qui sont drainés par la pluie et qui se retrouvent dans les rivières et les fleuves, pour finir dans la mer, dans les mers et les océans. Il y a aussi les marées noires, qui sont moins fréquentes, mais qui sont aussi très dévastatrices.
C'est effectivement des conséquences très alarmantes. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les effets néfastes de ces marées noires, Johan ?
Les marées noires causent des dommages considérables à l'environnement marin. Le pétrole recouvre les plages et les fonds marins, ce qui entraîne une asphyxie du milieu. Les animaux peuvent ingérer ou inhaler ces substances toxiques, ce qui peut entraîner des maladies, perturber la reproduction de nombreuses espèces et entraîner la mort, dans certains cas.
Pour autant, les hydrocarbures et produits chimiques ne sont pas les seuls facteurs qui perturbent les écosystèmes marins. Il y a également la pêche qui impacte énormément l'environnement, mais comment ?
Donc la pêche, elle a plusieurs impacts négatifs sur l'environnement marin. D'abord, il y a la surexploitation des stocks de poissons, parce que quand trop de poissons sont pêchés en même temps, ils n'ont pas le temps de se reproduire, ce qui va perturber les équilibres des écosystèmes marins. Et ça peut complètement faire disparaître certaines populations de poissons. Il y a aussi certaines techniques de pêche qui endommagent les fonds marins, comme la pêche au chalut, qui consiste à racler le fond marin avec des grands filets bien lourds, ou encore la pêche aux explosifs ou au cyanure pour étourdir les poissons et les attraper plus facilement.
Cela fait beaucoup réfléchir sur nos méthodes de pêche. Johan, peux-tu nous en dire plus sur la surpêche et la pêche de thon sauvage ?
La surpêche a donc des conséquences très graves, comme la diminution des populations de poissons, le dérèglement des écosystèmes marins et la perte de biodiversité. Elle perturbe les chaînes alimentaires et les habitats marins. Les populations humaines dépendant de la pêche subissent des pertes économiques et des impacts sur leur mode de vie. La surpêche menace également la pratique de pêche traditionnelle et réduit la capacité des stocks de poissons à se régénérer. Une gestion durable des ressources marines est essentielle pour limiter ces effets. Si l'on prend l'exemple des thons sauvages, on voit que sa surpêche menace les populations car elles grandissent lentement et ont une reproduction limitée. Il y a des régulations qui existent, mais il y a quand même des pêches illégales. Heureusement, il existe des labels comme le MSC qui mettent en place des pratiques responsables comme l'aquaculture ou la réduction des quotas de pêche pour préserver les stocks.
Merci beaucoup, Johan. Bien que la pêche peut être utilisée dans des mauvaises conditions qui sont défavorables aux espèces marines, elle est avant tout essentielle pour plusieurs raisons, tant sur le plan économique, alimentaire que écologique. Bien qu'elle fournit une importante source de protéines pour des millions de personnes dans le monde, le poisson est une source de nutriments vitaux, comme les acides gras oméga-3, l'iode, les vitamines et les minéraux, qui sont cruciaux pour la santé. C'est une activité économique vitale pour de nombreux pays, en particulier pour les communautés côtières. Elle génère des emplois dans l'élevage, la transformation, la distribution et la vente de produits de la mer. Dans de nombreuses régions, la pêche fait partie intégrante de la culture et des traditions locales. Elle a souvent une forte valeur sociale et communautaire, avec des pratiques transmises de génération en génération. Une gestion durable de la pêche contribue à maintenir l'équilibre des écosystèmes marins, Les poissons jouent donc un rôle important dans la régulation des populations de d'autres espèces marines et leur préservation est essentielle pour la biodiversité. La pêche, qu'elle soit commerciale ou récréative, est aussi un secteur touristique important. De nombreuses personnes pratiquent la pêche pour le loisir, contribuant ainsi à l'économie touristique dans les régions littorales. Malheureusement, aujourd'hui, la pêche est impactée par le réchauffement climatique. Juliette, peux-tu nous en dire davantage ?
En effet, les retombées de l'effet de serre et du réchauffement climatique ont un impact sur la vie aquatique et donc sur la pêche. C'est-à-dire que ça impacte 83% du cycle du carbone dans les océans et que 93% d'absorption d'excès de chaleur est causée par des émissions de gaz à effet de serre. La température moyenne de la surface des océans a augmenté d'environ 0,07 degrés par décennie au cours des 100 dernières années. Et cette dernière a accéléré depuis 1985. Ici, le réchauffement climatique est un phénomène global dû à la transformation du climat venant d'une hausse moyenne des températures, ce qui modifie les écosystèmes et les équilibres météorologiques et a des conséquences sur les mers et les océans. Les poissons sont des animaux à sang froid, donc ils sont dits polychilothermes. Le réchauffement climatique réchauffe les eaux. Les poissons sont donc obligés de s'adapter à leur milieu. Effectivement, la température des eaux a augmenté de 1 à 4 degrés, ce qui détériore leur habitat naturel.
Nous pouvons donc nous demander quels sont ces effets du réchauffement climatique sur la pêche.
Certaines études ont montré que si le changement climatique se poursuit au rythme actuel, la plupart des espèces marines perdront des parties importantes de leur habitat approprié d'ici 2100. Alors que de nombreuses espèces marines ont déjà commencé à modifier leur aire de répartition en raison du réchauffement climatique, il est très difficile d'estimer à quoi ressemblera la biodiversité marine dans le futur. En effet, outre la perte d'habitat, la zone d'habitat privilégiée des diverses espèces sera perturbée, en particulier le long de l'équateur. Certains modèles ont révélé que des zones peu adaptées à la plupart des espèces marines, par exemple en raison des températures élevées. Donc selon les chercheurs, la fragmentation des habitats entraînerait une diminution de la taille des populations, ce qui pourrait menacer de nombreuses espèces d'extinction, même si d'autres espèces se créeront et pourront s'adapter à ces eaux chaudes.
Merci beaucoup. De plus, un autre problème important entre en jeu, les espèces envahissantes qui se sont établies dans de nouvelles zones à cause du réchauffement de l'eau et qui vont dominer leur environnement en rentrant en concurrence avec des organismes indigènes, c'est-à-dire déjà présents sur le milieu. Peux-tu nous citer, Juliette, quelques espèces envahissantes ?
Par exemple, les espèces venimeuses, donc la hausse des températures de la surface de l'eau, elles vont obliger les hommes à faire face à plusieurs morsures ou des piqûres, car une nouvelle analyse de grande envergure portant sur les animaux aquatiques venimeux révèle que la présence de ces espèces dangereuses pourrait devenir plus courante et plus étendue. À cause de la hausse des températures dans les océans, des espèces telles que le poisson lion, le serpent de mer, l'acanthastère pourpre et de nombreuses méduses venimeuses pourraient remonter ou descendre vers les pôles.
Nous comprenons alors que ce réchauffement influence leur métabolisme, leur croissance, leur productivité, leur comportement et leur reproduction saisonnière. Les poissons deviennent donc vulnérables aux maladies et aux toxines. Ces conditions entraînent des déplacements de poissons qui se déplacent pour retrouver des eaux adaptées à leur mode de vie. On observe également des variations d'acidité et de salinité dans les océans. Certaines espèces marines risquent de voir leur population diminuer car certains poissons ne peuvent pas s'adapter à ces différents changements. Mais d'où provient cette acidité, Joanne ?
Cette acidité provient d'une augmentation des concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone. Cette acidification peut nuire à la croissance des coquilles d'huîtres, de palourdes et d'escargots, entre autres. Par exemple, des huîtres dans le nord-ouest du Pacifique ont connu une mortalité accrue, ainsi que le loup et la dorade royale, qui ont connu une baisse de leur population d'environ 40%.
Cela démontre à quel point nos actions peuvent avoir des répercussions à grande échelle. Et maintenant, parlons des solutions. Que pouvons-nous faire pour réduire l'impact de ces populations ? De ces pollutions, pardon, afin de préserver ces écosystèmes.
Donc la première étape, c'est de réduire notre consommation de plastique. Il est essentiel de favoriser des alternatives durables comme les matériaux biodégradables. De plus, améliorer la gestion des déchets et promouvoir le recyclage sont des actions cruciales pour limiter cette pollution. Enfin, il est important d'encourager la mise en place de zones marines protégées. Il y a des initiatives comme la réduction de l'utilisation du plastique à usage unique, le recyclage plus efficace et le nettoyage des plages et des fonds marins qui ont un rôle clé. Des projets de loi comme l'interdiction de plastique à usage unique dans certains pays commencent à porter leurs fruits et d'autres solutions incluent la mise en place de technologies pour capter et éliminer les plastiques dans les océans ainsi que la restauration des habitats marins affectés.
Maintenant, nous allons nous intéresser à nos actions quotidiennes pour limiter notre consommation de plastique. Pouvez-vous nous dire, Joanne et Juliette, quelles sont votre action quotidienne?
Moi, personnellement, j'essaie de faire du recyclage le plus possible.
Moi, pareil, je recycle les emballages, mais c'est à peu près tout. Et toi, Manon?
Alors moi, j'évite d'acheter trop d'emballages plastiques. Je préfère acheter en vrac pour tout ce qui concerne les fruits et les légumes. Et je recycle. En tout cas, je vous remercie pour ces éclaircissements sur les problèmes environnementaux. Nous allons maintenant aborder la deuxième partie de notre émission, où nous discuterons de phénomènes marins rares et des découvertes fascinantes dans nos océans. Tout de suite, une musique de Gilbert Montagnier, les Soul Night des Tropiques. Nous nous retrouvons dans cette deuxième partie pour se concentrer sur les phénomènes marins rarissimes, dont l'observation de la boudroie abyssale, les échouages massifs de cétacés, de poissons rares et également de coraux, un écosystème qui est composé d'animaux marins et de végétaux, ainsi que tous les facteurs abiotiques, c'est-à-dire non vivants, comme la température, le pH, la lumière, la pression et plein d'autres. Nous allons illustrer cette deuxième partie avec la Grande Barrière de Corail en Australie, qui est un parfait exemple de l'impact de nos activités sur cet écosystème marin. Juliette, que peux-tu nous dire sur la Grande Barrière de Corail ?
Donc, la Grande Barrière de Corail, elle se situe dans l'océan Pacifique, au nord-ouest de la côte australienne, et elle s'étend sur environ 344 000 km², ça fait à peu près la taille de l'Allemagne. Et ça fait d'elle l'écosystème de récifs coralliens le plus étendu du monde, et il est même visible depuis l'espace. Et on y trouve environ 360 espèces de coraux différentes. Il y a environ 15 millions d'années, le déplacement des plaques continentales a fait migrer l'île d'Australie vers une région où le climat était beaucoup plus tropical et chaud. Et donc, une fois que la température de l'eau de l'Australie a augmenté, les conditions ont été réunies pour permettre aux coraux de se développer à proximité des côtes.
Et donc, quels sont les facteurs pouvant causer sa disparition ? On sait tout d'abord que la principale menace pour la Grande Barrière de Corail est le réchauffement climatique. En effet, le réchauffement des océans est responsable du blanchissement des coraux. La chaleur de l'eau entraîne l'expulsion des zooxanthelles vivant en symbiose avec le corail. Alors, qu'est-ce qu'une relation en symbiose ? C'est une association durable qui est bénéfique pour chacun des organismes, car le corail offre un abri, un support et une bonne exposition lumineuse pour les zooxanthelles afin que ces algues puissent réaliser la photosynthèse à l'aide des déchets métaboliques des coraux. Et en échange, le corail pourra bénéficier de l'oxygène rejeté par les zooxanthelles après leur photosynthèse. Une fois ces algues expulsées, le corail devient plus affaibli et donc plus vulnérable aux maladies et à la famine.
En effet, de 1985 à 2012, le récif a perdu plus de la moitié de sa surface corallifère. Il a aussi connu 4 grands épisodes de blanchissement. Ensuite, une autre menace pour la Grande Barrière de Corail est la pollution des eaux. Le déversement de produits chimiques ou d'intrants agricoles est donc lui aussi responsable de la mort de coraux. Puis on peut également parler de l'action de l'homme sur les écosystèmes marins. Par exemple, le tourisme augmenterait le stress de cet écosystème en le perturbant. On peut aussi penser aux plongeurs ou aux bateaux touristiques. D'autres exemples que le tourisme serait aussi le développement de ports de charbon qui endommageraient le corail et augmenteraient la pollution des eaux et le trafic maritime, mais aussi la pêche, comme je l'expliquais précédemment.
Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui influencent la dégradation de cet écosystème, Johan ?
On peut aussi mentionner la présence d'espèces invasives comme l'étoile de mer Acanthaster pourpre, qui est le prédateur des coraux, puisqu'elle s'en nourrit presque exclusivement.
Et quels sont les moyens mis en place pour éviter sa disparition aux coraux ?
Donc pour contrer la menace qui pèse sur la Grande Barrière de Corail, il y a de nombreuses organisations de défense de l'environnement qui agissent pour sa protection, faisant de ce site australien le système de récifs le plus protégé au monde. Donc en 1975, le gouvernement australien a créé le parc marin de la Grande Barrière, permettant de réguler les activités qui la détériorent en instaurant des restrictions, comme des zones, des permis ou des plans de gestion. En 1981, la Grande Barrière de Corail a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui lui permet de bénéficier d'une protection particulière de la part des États membres des Nations Unies. Et en 2013, le programme de protection de la Grande Barrière de Corail « Se battre pour le récif » a été lancé par l'organisme WWF, qui, en s'associant à des groupes locaux de protection de la nature ou au gouvernement australien, a réussi à interdire tout dépôt de boues de dragage sur le site de la Grande Barrière de Corail, a annulé la construction de nouveaux ports dans des zones encore intactes de la côte récifale et a stoppé le développement de 3 mégaports charbonniers.
On peut donc dire que de nombreux facteurs comme le réchauffement climatique et la pollution menacent la Grande Barrière de Corail et son écosystème marin. En effet, le nombre de coraux a diminué de moitié depuis 1996. Afin d'empêcher sa disparition des organismes ou le gouvernement australien se sont mobilisés pour protéger ce lieu en mettant en place des restrictions et en interdisant des actions. Malheureusement, on peut imaginer que son état va devenir de plus en plus mauvais et que la grande barrière de corail disparaîtra un jour. Une étude a estimé sa disparition d'ici 2100 selon son état actuel. Nous allons maintenant aborder des phénomènes rares qui se sont produits récemment, comme la baudroie abyssale de Johnson, que vous avez sûrement dû entendre parler sur les réseaux sociaux. Cette créature est surnommée le Diable Noir. Récemment, une de ces baudroies a été observée à la surface de l'océan près de Tenerife. Donc ce sont des îles vers l'Espagne. C'est une découverte spectaculaire, mais on peut se poser la question de pourquoi cette créature a été vue à cette profondeur, donc c'est-à-dire elle a été vue à la surface, alors que généralement elle vit entre 200 et 2000 mètres dans les profondeurs abyssales.
Alors comme tu l'as dit, la baudroie abyssale vit dans des profondeurs extrêmes. Il est donc extrêmement rare qu'elle s'aventure à la surface. Plusieurs hypothèses ont été mises en avant pour expliquer ce phénomène, notamment la présence de courants chauds ascendants, des changements climatiques ou des pathologies qui la désorienteraient. Ce genre d'observation nous aide à mieux comprendre les écosystèmes profonds et l'impact du changement climatique sur ces derniers.
Cette baudroie, avec son antenne leurre bioluminescente que vous avez sûrement déjà vue dans le film d'animation Le Monde de Nemo, lorsque Nemo se retrouve avec son ami Dory face aux prédateurs des abysses, alors qu'ils étaient attirés par une étrange lumière. Mais comment, à une telle profondeur, un poisson peut-il émettre de la lumière, Juliette ?
Eh bien, la baudroie abyssale est un exemple d'adaptation extrême. Cette antenne leurre bioluminescente, attachée à son front, émet une lueur grâce à des bactéries luminescentes qui vivent en symbiose avec la baudroie, puisque les bactéries sont protégées et la baudroie s'en sert comme un appât. Ces bactéries attirent les proies de l'animal sans qu'elle ait besoin de faire le moindre effort. De plus, elle possède une grande bouche lui permettant d'avaler des poissons jusqu'à deux fois sa taille. Mais c'est pas tout. La baudroie abyssale possède un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que les caractéristiques morphologiques des femelles et des mâles sont différentes. Donc la femelle, elle peut atteindre 20 cm alors que le mâle, il ne dépasse pas les 3 cm.
Cette différence de taille entre le mâle et la femelle est quand même flagrante. Pourquoi cela ?
Donc le mâle, grâce à sa petite taille, il va pouvoir s'accrocher au corps de la femelle pour fusionner avec elle, devenant un parasite sexuel, ne vivant que pour la reproduction. La baudroie, elle est au sommet de sa chaîne alimentaire et son rôle dans l'équilibre des abysses est crucial. Les prédateurs des abysses comme cette baudroie sont souvent des indicateurs de la santé globale de l'écosystème marin. Leur disparition, elle pourrait avoir des effets en cascade affectant tout l'écosystème.
Merci beaucoup. On va passer maintenant à un autre événement tragique qui s'est produit. C'est l'échouage massif de 157 dauphins en Tasmanie. Quel est l'impact des activités humaines sur ce genre de phénomène ?
Alors, les échouages massifs sont souvent liés à plusieurs facteurs, les bruits des sous-marins, le trafic maritime, l'exploration pétrolière. Ces derniers peuvent perturber les cétacés qui utilisent l'écho des sons pour se déplacer.
Peux-tu nous détailler ce système d'écho qu'utilisent les cétacés ? C'est quoi son nom ?
Alors, on appelle ce système l'écholocation. Cela désigne la façon dont certains animaux émettent des sons pour se repérer dans l'espace et localiser les éléments de leur environnement. Il peut aussi y avoir des maladies, des blessures ou encore des changements de la nourriture disponible qui ont pu provoquer ces échouages massifs. Cela reflète la vulnérabilité de ces animaux face à nos activités.
Merci beaucoup. Cela montre bien que l'activité humaine affecte non seulement la faune, mais aussi les comportements naturels des animaux marins. Pour cet échouage, les autorités locales, en collaboration avec des vétérinaires spécialisés, ont tenté d'agir afin de remettre à l'eau les dauphins encore vivants, faisant face à certaines difficultés comme l'isolement compliquant l'acheminement d'équipements spécialisés ou des conditions océaniques défavorables pour transporter ou remettre à l'eau ces cétacés. Malheureusement, leur effort était vain. Ils ont dû prendre la décision d'euthanasier les animaux afin d'abréger leurs souffrances. Il y a également l'échouage de baleines qui nécessite l'intervention de poids lourds pour l'enfouissement par la suite du corps de la baleine, ce qui est très compliqué car une baleine peut peser jusqu'à 15 tonnes et mesurer jusqu'à 24 mètres de long. Et pour conclure, un autre phénomène rare, l'apparition d'un poisson ruban, de son nom scientifique un regalec, s'est échoué en Californie. Pourquoi ces poissons habituellement habitués à des grandes profondeurs remontent-ils à la surface ?
Donc ça peut être lié à plusieurs facteurs, notamment des courants marins anormaux, des blessures causées par des prédateurs ou des phénomènes météorologiques extrêmes comme par exemple El Niño ou La Niña. El Niño, c'est un réchauffement des eaux du Pacifique qui provoque des effets des hivers plus chauds en Amérique du Nord, des sécheresses en Asie, en Australie et des pluies excessives et des inondations en Amérique du Sud et aux États-Unis. Et La Niña, c'est l'inverse, c'est un refroidissement. L'apparition de ces poissons à la surface est souvent un signe de perturbation dans leur habitat naturel, souvent causé par des phénomènes climatiques ou géologiques, comme par exemple des séismes sous-marins.
Merci beaucoup pour toutes ces informations passionnantes. Pour rappel, nous n'avons exploré que 5% de nos océans. De nombreuses découvertes restent encore à faire. Pouvez-vous nous dire si vous avez déjà vu des choses étranges quand vous êtes allé à la plage ou à la mer ?
Moi, personnellement, non.
Moi, je crois que ça m'est déjà arrivé, vu que j'ai grandi dans les îles, j'ai déjà vu des poissons un peu bizarres. J'ai vu aussi une fois, en Australie, une méduse boîte. C'est la méduse la plus dangereuse du monde, et elle avait une couleur un peu bizarre. Et sinon, genre des anguilles et tout, des murènes.
Ok, bah... Moi, en vrai, pas particulièrement. Après, j'ai déjà vu des méduses. D'ailleurs, il y en a de plus en plus souvent. D'ailleurs, j'étais allée en décembre à Minorque. Donc, c'est vrai que c'est pas trop la période où on peut voir des méduses. Et l'eau devait être un peu chaude parce que les méduses, souvent, c'est dans les eaux chaudes. Et je trouvais ça bizarre qu'en décembre, il y avait beaucoup de méduses. Donc, ça montre quand même qu'il y a une forme de réchauffement climatique et que ça nous impacte tous. Et ces découvertes et phénomènes, elles nous rappellent bien l'importance de préserver nos océans et leur biodiversité, qui sont fortement menacées par les activités humaines, le réchauffement climatique, la surpêche, le tourisme, la pollution, l'acidification des océans, ce qui entraîne la destruction des habitats marins, et ainsi que les espèces invasives qui menacent toutes les autres espèces. Donc ces menaces, elles sont souvent interconnectées et elles créent un cercle vicieux, ce qui rend la conservation de la biodiversité marine encore plus complexe et urgente. Il faut donc s'unir pour préserver notre planète, car sans elle, nous ne pourrions pas survivre. Tout de suite, nous allons écouter un tube de Bob Marley, Could You Be Loved?